Iliade, chant 18e. Et ils combattaient ainsi comme le feu ardent. Et Antilochos vint à Achilleus au pied rapide. Et il le trouva devant ses nefs aux antennes dressées, songeant dans son esprit aux choses accomplies déjà. Et gémissant, il disait dans son cœur magnanime : Ô Dieu, pourquoi les Achéens chevelus, dispersés par la plaine, sont-ils repoussés tumultueusement vers les nefs ? Que les dieux m'épargnent ces cruelles douleurs qu'autrefois ma mère m'annonça, quand elle me disait que le meilleur des Myrmidones, moi vivant, perdrait la lumière de Hélios sous les mains des Troyens. Sans doute il est déjà mort, le brave fils de Ménoïtios, le malheureux. Certes, j'avais ordonné qu'ayant repoussé le feu ennemi, il revint aux nefs sans combattre Hector. Et tandis qu'il roulait ceci dans son esprit et dans son cœur, le fils de l'illustre Nestor s'approcha de lui, et versant de chaudes larmes, dit la triste nouvelle. Hélas, fils du belliqueux Péléus, certes, tu vas entendre une triste nouvelle, et plût au Dieu que ceci ne fût point arrivé. Patroclos gît mort, et tous combattent pour son cadavre nu, car Hector possède ses armes. Il parla ainsi. Et la noire nuée de la douleur enveloppa Achilleus, et il saisit de ses deux mains la poussière du foyer, et la répandit sur sa tête, et il en souilla sa belle face, et la noire poussière souilla sa tunique nectaréenne. Et lui-même, étendu tout entier dans la poussière, gisait, et des deux mains arrachait sa chevelure. Et les femmes, que lui et Patroclos avaient prises, hurlaient violemment, affligées dans leur cœur, et toutes, hors des tentes, entourait le belliqueux Achilleus, et elles se frappaient la poitrine, et leurs genoux étaient rompus. Antilochos aussi gémissait, répandant des larmes, et tenait les mains d'Achilleus qui sanglotait dans son noble cœur. Et le Nestoride craignait qu'il se tranchât la gorge avec les reins. Achilleus poussait des sanglots terribles, et sa mère vénérable l'entendit, assise dans les gouffres de la mer, auprès de son vieux père. Et elle se lamenta aussitôt. Et autour de la déesse étaient rassemblées toutes les Néréides qui sont au fond de la mer, Glauqué, et Thaléia, et Cymodoqué, et Nésaïe, et Speio, et Toé, et Allié aux yeux de bœuf, et Cymotoé, et Alcaïe, et Limnoreia, et Mélité, et Yaïra, et Amphitoé, et Agavé, et Loto, et Proto, et Férouza, Dinaméné, et Dexaméné, et Amphinomé, et Kalianassa, et Doris, et Panopée, et l'illustre Galatéia, et Némertès, et Apseudès, et Kalianeira, et Climénée, et Yanaira, et Yanassa, et Maïra, et Oreitia, et Amateia aux beaux cheveux, et les autres Néréides qui sont dans la profonde mer. Et elles emplissaient la grotte d'argent, et elles se frappaient la poitrine, et Tétis se lamentait ainsi. Écoutez-moi, sœur Néréide, afin que vous sachiez les douleurs qui déchirent mon âme. Hélas, à moi malheureuse, qui ai enfanté un homme illustre, un fils irréprochable et brave, le plus courageux des héros, et qui a grandi comme un arbre. Je l'ai élevé comme une plante dans une terre fertile, et je l'ai envoyé vers Ilios, sur ses nefs aux poupres courbées, combattre les Troyens. Et je ne le verrai point revenir dans mes demeures, dans la maison péléienne. Voici qu'il est vivant, et qu'il voit la lumière de Hélios, et qu'il souffre, et je ne puis le secourir. Mais j'irai vers mon fils bien-aimé, et je saurai de lui-même quelle douleur l'accable loin du combat. Ayant ainsi parlé, elle quitta la grotte, et toute la suivait pleurante, et l'eau de la mer s'ouvrait devant elle. Puis elles parvinrent à la riche Troie, et elles abordèrent là où les Myrmidones, autour d'Achilleus au pied rapide, avaient tiré leurs nombreuses nefs sur le rivage. Et sa mère vénérable le trouva poussant de profonds soupirs. Et elle prit en pleurant la tête de son fils, et elle lui dit en gémissant ces paroles ailées. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quelle douleur envahit ton âme? Parle, ne me cache rien, afin que nous sachions tous deux. Zeus, ainsi que je l'en avais supplié de mes mains étendues, a rejeté tous les fils des Achéens auprès des nefs. Et ils souffrent de grands maux parce que tu leur manques. » Et Achilleus, au pied rapide, avec de profonds soupirs, lui répondit : « Ma mère, L'Olympien m'a exaucé, mais qu'en ai-je retiré, puisque mon cher compagnon Patroclos est mort, lui que j'honorais entre tous autant que moi-même. Je l'ai perdu. Hector, l'ayant tué, lui a arraché mes belles, grandes et admirables armes, présent splendide des dieux à Péléus, le jour où ils te firent partager le lit d'un homme mortel. Plutôt Dieu que tu fusses resté avec les déesses de la mer, et que Péléus eût épousé plutôt une femme mortelle. Maintenant, une douleur éternelle emplira ton âme, à cause de la mort de ton fils, que tu ne verras plus revenir dans tes demeures. Car je ne veux plus vivre, ni m'inquiéter des hommes, à moins qu'Hector, percé par ma lance, ne rende l'âme, et que Patroclos Ménoïtiade, livré en pâture aux chiens, ne soit vengé. Et Thétis, versant des larmes, lui répondit : Mon enfant, dois-tu donc bientôt mourir comme tu le dis ? C'est ta mort qui doit suivre celle d'Hector. Et Achilleus, au pied rapide, en gémissant, lui répondit : Je mourrai donc, puisque je n'ai pu secourir mon compagnon pendant qu'on le tuait. Il est mort loin de la patrie, et il m'a conjuré de le venger. Je mourrai maintenant, puisque je ne retournerai point dans la patrie, et que je n'ai sauvé ni Patroclos, ni ceux de mes compagnons, qui sont tombés en foule sous le divin Hector, tandis que j'étais assis sur mes nefs, inutile fardeau de la terre. Moi, qui l'emporte sur tous les Achéens dans le combat, car d'autres sont meilleurs dans l'agora. Ah, que la dissension périsse parmi les dieux, et parmi les hommes, périsse la colère qui trouble le plus sage, et qui, plus douce que le miel liquide, se gonfle comme la fumée dans la poitrine des hommes. C'est ainsi que le roi des hommes, Agamemnon, a provoqué ma colère. Mais oublions le passé, malgré nos douleurs, et dans notre poitrine, ployons notre âme à la nécessité. Je chercherai Hector, qui m'a enlevé cette chère tête, et je recevrai la mort quand il plaira à Zeus et aux autres dieux immortels. La force héracléenne n'évita point la mort, lui qui était très cher au roi Zeus Cronion, mais l'inévitable colère de Héré et la moire le domptèrent. Si une moire semblable m'attend, on me couchera mort sur le bûcher. Mais auparavant, je remporterai une grande gloire, et que la Troadienne ou la Dardanienne essuie de ses deux mains ses joues délicates couvertes de larmes, car je la contraindrai de gémir misérablement, et elles comprendront que je me suis longtemps éloignée du combat. Ne me retiens donc pas, malgré ta tendresse, car tu ne me persuaderas point. » Et la déesse Thétis au pied d'argent lui répondit : « Certes, mon fils, tu as bien dit. Il est beau de venger la ruine cruelle de ses compagnons, mais tes armes d'airain, belles et splendides, sont parmi les Troyens. Hector, au casque mouvant, se glorifie d'en avoir couvert ses épaules. Mais je ne pense pas qu'il s'en réjouisse longtemps, car le meurtre est auprès de lui. N'entre point dans la mêlée d'Arès avant que tu m'aies revu de tes yeux. Je reviendrai demain, comme Hélios se lèvera, avec de belles armes venant du roi Héphaïstos. » Ayant ainsi parlé, elle quitta son fils et dit à ses sœurs de la mer : Rentrez à la hâte dans le large sein de la mer, et retournez dans les demeures de notre vieux père, et dites-lui tout ceci. Moi, je vais dans le vaste Olympos, auprès de l'illustre ouvrier Héphaïstos, afin de lui demander de belles armes splendides pour mon fils. » Elle parla ainsi, et les Néréides disparurent aussitôt sous l'eau de la mer. Et la déesse Thétis au pied d'argent monta de nouveau dans l'Olympos, afin d'en rapporter de belles et illustres armes pour son fils. Et tandis que ses pieds la portaient dans l'Olympos, les Achéens, avec un grand tumulte, vers les nefs et le Hellespontos, fuyaient devant le tueur d'homme Hector. Et les Achéens, au bel Cnémide, n'avaient pu enlever hors des traits le cadavre de Patroclos, du compagnon d'Achilleus. Et tout le peuple de Troie, et les chevaux, et le Priamide Hector, semblable à la flamme par sa fureur, poursuivait toujours Patroclos. Et trois fois, l'illustre Hector le saisit par les pieds, désirant l'entraîner et excitant les Troyens. Et trois fois, les Aias, revêtus d'une force impétueuse, le repoussèrent loin du cadavre. Et lui, certain de son courage, tantôt se ruait dans la mêlée, tantôt s'arrêtait avec de grands cris, mais jamais ne reculait. De même que les bergers campagnards ne peuvent chasser loin de sa proie un lion fauve et affamé. De même les deux Aias ne pouvaient repousser le Priami d'Hector loin du cadavre. Et il l'eut entraîné, et il eut remporté une grande gloire. Si la rapide Iris aux pieds aériens vers le Péléide ne fut venue à la hâte de l'Olympos, afin qu'il se montrât. Héré l'avait envoyé, Zeus et les autres dieux l'ignorant. Et debout auprès de lui, elle dit en paroles ailées, « Lève-toi, Péléide, le plus effrayant des hommes, et secours Patroclos, pour qui on combat avec fureur devant les nefs. C'est là que tous s'entretuent, les Achéens pour le défendre, et les Troyens pour l'entraîner vers Ilios battu des vents. Et l'illustre Hector espère surtout l'entraîner, et il veut mettre, après l'avoir coupé, la tête de Patroclos au bout d'un pieu. Lève-toi, ne reste pas plus longtemps inerte, et que la honte te saisisse en songeant à Patroclos devenu le jouet des chiens troyens. Ce serait un opprobre pour toi si son cadavre était souillé. » Et le divin et rapide Achilleus lui dit, « Déesse Iris, qui d'entre les dieux t'a envoyé vers moi ?» Et la rapide Iris aux pieds aériens lui répondit, « Héré, la glorieuse épouse de Zeus m'a envoyé, et le sublime Cronide et tous les immortels qui habitent l'Olympos neigeux l'ignorent. » Et Achilleus aux pieds rapides lui répondant, parla ainsi, « Comment irai-je au combat puisqu'ils ont mes armes ? Ma mère bien-aimée me le défend, avant que je l'aie vu de mes yeux reparaître avec de belles armes venant d'Héphaïstos. Je ne puis revêtir celle d'aucun autre guerrier, sauf le bouclier d'Aias Télamoniade. Mais il combat sans doute au premier rang, tuant les ennemis de sa lance autour du cadavre de Patroclos. » Et la rapide Iris aux pieds aériens lui répondit, « Certes, nous savons que tes belles armes te sont enlevées, mais telles que te voilà, apparais aux Troyens sur le bord du fossé, et ils reculeront épouvantés, et les braves fils des Achéens respireront. Il ne s'agit que de respirer un moment. » Ayant ainsi parlé, la rapide Iris disparut, et Achilleus, cher à Zeus, se leva, et sur ses robustes épaules, Athénée mit l'égide frangée, et la grande déesse ceignit la tête du héros d'une nuée d'or, sur laquelle elle alluma une flamme resplendissante. De même, dans une île lointaine, la fumée monte vers l'éther du milieu d'une ville assiégée. Tout le jour, les citoyens ont combattu avec fureur hors de la ville. Mais au déclin de Hélios, ils allument des feux ardents dont la splendeur monte dans l'air et sera peut-être vue des peuples voisins qui viendront sur leurs nefs les délivrer d'Arès. Ainsi, une haute clarté montait de la tête d'Achilleus jusque dans l'éther, et il s'arrêta sur le bord du fossé, sans se mêler aux Achéens, car il obéissait à l'ordre prudent de sa mère. Là, debout, il poussa un cri, et Pallas Athénée cria aussi, et un immense tumulte s'éleva parmi les Troyens. Et l'illustre voix de l'Aïakide était semblable au son strident de la trompette autour d'une ville assiégée par des ennemis acharnés. Et dès que les Troyens eurent entendu la voix d'airain de l'Aïakide, ils frémirent tous, et les chevaux aux belles crinières tournèrent les chars, car ils pressentaient des malheurs. Et leurs conducteurs furent épouvantés quand ils virent cette flamme infatigable et horrible qui brûlait sur la tête du magnanime Péléion et que nourrissait la déesse aux yeux clairs Athénée. Et trois fois, sur le bord du fossé, le divin Achilleus cria. Et trois fois, les Troyens furent bouleversés et les illustres alliés. Et 12 des plus braves périrent au milieu de leurs chars et de leurs lances. Mais les Achéens, emportant avec ardeur Patroclos hors des traits, le déposèrent sur un lit. Et ses chers compagnons pleuraient autour, et avec eux marchait Achilleus aux pieds rapides. Et il versait de chaudes larmes, voyant son cher compagnon couché dans le cercueil, percé par les reins aigus, lui qu'il avait envoyé au combat avec ses chevaux et son char, et qu'il ne devait point revoir vivant. Et la vénérable Érée aux yeux de bœuf commanda à l'infatigable Hélios de retourner aux sources d'Okéanos. Et Hélios disparut à regret, et les divins Achéens mirent fin à la mêlée violente et à la guerre lamentable. Et les Troyens, abandonnant aussi le rude combat, délièrent les chevaux rapides et s'assemblèrent pour l'agora avant le repas. Et l'agora les vit debout, aucun ne voulant s'asseoir, car la terreur les tenait depuis qu'Achilleus avait reparu, lui qui depuis longtemps ne se mêlait plus au combat. Et le sage Polydamas Pantoïde commença de parler, et seul, il voyait le passé et l'avenir. Et c'était le compagnon d'Hector, étant né la même nuit, mais il le surpassait en sagesse, autant qu'Hector l'emportait en courage. Plein de prudence, il leur dit dans l'agora, « Amis, délibérez mûrement, je conseille de marcher vers la ville et de ne point attendre la divine Éos auprès des nefs, car nous sommes loin des murs. Aussi longtemps que cet homme a été irrité contre le divin Agamemnon, il était plus aisé de dompter les Achéens, et je me réjouissais de coucher auprès des nefs rapides, espérant saisir les nefs aux deux rangs d'Aviron. Mais je redoute maintenant le rapide Péléon, car dans son cœur indomptable, il ne voudra point rester dans la plaine où les Troyens et les Achéens déploient la force d'Arès. Mais il combattra pour s'emparer de notre ville et de nos femmes. Allons vers Ilios, obéissez-moi et faites ainsi. Maintenant, la nuit contraire retient le rapide Péléon. Mais s'il nous attaque demain avec fureur, celui qui le sentira, alors fuira volontiers vers la sainte Ilios, s'il lui échappe. Et les chiens et les oiseaux carnassiers mangeront une foule de Troyens. Plaise aux dieux qu'on ne me le dise jamais. Si vous obéissez à mes paroles, bien qu'à regret, nous reprendrons des forces cette nuit. Et ces tours, ces hautes portes et leurs barrières longues et solides protégeront la ville. Demain, armés dès le matin, nous serons debout sur nos tours. Et le travail lui sera lourd s'il vient de ses nefs assiéger nos murailles. Et il s'en retournera vers les nefs, ayant épuisé ses chevaux au grand coup, à courir sous les murs de la ville. Et il ne pourra point pénétrer dans Ilios, et il ne la détruira jamais. Et auparavant, les chiens rapides le mangeront. Et Hector, au casque mouvant, avec un sombre regard, lui répondit : Polydamas, il me déplaît que tu nous ordonnes de nous renfermer encore dans la ville. N'êtes-vous donc point là d'être enfermés dans nos tours ? Autrefois, tous les hommes qui parlent des langues diverses vantaient la ville de Priamos, abondante en or, riche en airain. Aujourd'hui, les trésors qui étaient dans nos demeures sont dissipés. Depuis que le grand Zeus s'est irrité, la plupart de nos biens ont été transportés en Phrygie et dans la belle Maïonnée. Et maintenant que le fils du subtil Cronos m'a donné la victoire auprès des nefs et m'a permis d'acculer les Achéens à la mer, ô insensé, ne répands point de telles pensées dans le peuple. Aucun des Troyens ne t'obéira, je ne le permettrai point. Allons, faites ce que je vais dire. Prenez le repas dans les rangs, n'oubliez point de veiller, chacun à son tour. Si quelque Troyen craint pour ses richesses, qu'il les donne au peuple, afin que tous en profitent. Et cela vaudra mieux que d'en faire jouir les Achéens. Demain, dès le matin, nous recommencerons le rude combat auprès des nefs creuses. Et si le divin Achilleus se lève auprès des nefs, la rencontre lui sera rude, car je ne le fuirai pas dans le combat violent, mais je lui tiendrai courageusement tête, où il remportera une grande gloire, où je triompherai. Arès est commun à tous, et souvent, il tue celui qu'il voulait tuer. Hector parla ainsi, et les Troyens applaudirent les insensés, car Pallas Athénée leur avait ravi l'esprit. Et ils applaudirent les paroles funestes d'Hector, et ils n'écoutèrent point le sage conseil de Polydamas, et ils prirent leur repas dans les rangs. Mais les Achéens, pendant toute la nuit, pleurèrent autour de Patroclos, et le Péléide menait le deuil lamentable, posant ses mains tueuses d'homme sur la poitrine de son compagnon, et gémissant, comme une lionne à longue barbe dont un chasseur a enlevé les petits dans une épaisse forêt. Elle arrive trop tard, et elle gémit, cherchant par toutes les vallées les traces de l'homme, et une violente colère la saisit. Ainsi Achilleus, avec de profonds soupirs, dit au Myrmidone : « Ô Dieu, certes j'ai prononcé une parole vaine. Le jour où consolant le héros Ménoïtios dans ses demeures, je lui disais que je ramènerais son fils illustre, après qu'il aurait renversé Ilios et pris sa part des dépouilles. Mais Zeus n'accomplit pas tous les désirs des hommes. Nous rougirons tous deux la terre devant Troie, et le vieux cavalier Péléus ne me reverra plus dans ses demeures, ni ma mère Thétis, car cette terre me gardera. ô Patroclos, puisque je subirai la tombe le dernier. Je ne t'ensevelirai point avant de t'avoir apporté les armes et la tête d'Hector, ton magnanime meurtrier. Et je tuerai devant ton bûcher 12 illustres fils des Troyens, car je suis irrité de ta mort. Et pendant ce temps, tu resteras couché sur mes nefs aux poupres courbées, et autour de toi, les Troyennes et les Dardaniennes au large sein, que nous avons conquises tous deux par notre force et nos lances, après avoir renversé beaucoup de riches cités d'hommes aux diverses langues, gémiront nuit et jour en versant des larmes. » Le divin Achilleus parla ainsi, et il ordonna à ses compagnons de mettre un grand trépied sur le feu, afin de laver promptement les souillures sanglantes de Patroclos. Et ils mirent sur le feu ardent le trépied des ablutions, et ils y versèrent l'eau, et au-dessous, ils allumèrent le bois. Et la flamme enveloppa le ventre du trépied, et l'eau chauffa. Et quand l'eau fut chaude dans le trépied brillant, ils lavèrent Patroclos. Et l'ayant oint d'une huile grasse, ils emplirent ses plaies d'un baume de 9 ans. Et le déposant sur le lit, ils le couvrirent d'un lin léger, de la tête aux pieds, et par-dessus d'un vêtement blanc. Ensuite, pendant toute la nuit, les Myrmidones gémirent, pleurant Patroclos. Mais Zeus dit à Héré, sa sœur et son épouse, « Tu as enfin réussi, vénérable Héré aux yeux de bœuf. Voici qu'Achilleus aux pieds rapides s'est levé. Les Achéens chevelus ne seraient-ils point nés de toi ?» Et la vénérable Héré aux yeux de bœuf lui répondit, « Très dur Cronide, quelle parole as-tu dite ? Un homme, bien que mortel et doué de peu d'intelligence, peut se venger d'un autre homme. Et moi, qui suis la plus puissante des déesses, et par ma naissance, et parce que je suis ton épouse, à toi qui règnes sur les immortels, je ne pourrai méditer la perte des Troyens. » Et il parlait ainsi. Et Tétis au pied d'argent parvint à la demeure d'Héphaïstos, incorruptible, étoilé, admirable aux immortels eux-mêmes, faite d'airain, et que le boiteux avait construite de ses mains. Et elle le trouva suant, et se remuant autour des soufflets, et haletant, et il forgeait 20 trépieds pour être placés autour de sa demeure solide. Et il les avait posés sur des roues d'or, afin qu'ils se rendissent d'eux-mêmes à l'assemblée divine, et qu'ils en revinssent d'eux-mêmes. Il ne leur manquait, pour être finis, que des anses aux formes variées. Héphaïstos les préparait, et en forgeait les attaches. Et tandis qu'il travaillait à ses œuvres habiles, la déesse Tétis aux pieds d'argent s'approcha. Et Charis aux belles bandelettes, qu'avait épousé l'illustre boiteux des deux pieds, l'ayant vu, lui prit la main et lui dit, « Ô Tétis au large Péplos, vénérable et cher, pourquoi viens-tu dans notre demeure où nous te voyons si rarement ? Mais suis-moi, et je t'offrirai les mets hospitaliers. » Ayant ainsi parlé, la très noble déesse la conduisit, et l'ayant fait asseoir sur un trône aux clous d'argent, beau et ingénieusement fait, elle plaça un escabeau sous ses pieds et appela l'illustre ouvrier Héphaïstos. « Viens, Héphaïstos, Tétis a besoin de toi. » Et l'illustre boiteux des deux pieds lui répondit, « Certes, elle est toute puissante sur moi, la déesse vénérable qui est entrée ici. C'est elle qui me sauva, quand je fus précipité d'en haut par ma mère impitoyable, qui voulait me cacher aux dieux parce que j'étais boiteux. Que de douleurs j'eusse enduré alors, si Tétis et Eurynomée, la fille d'Okéanos au reflux rapide, ne m'avaient reçue dans leur sein. Pour elle, dans leur grotte profonde, pendant 9 ans, je forgeai 1000 ornements, des agrafes, des nœuds, des colliers et des bracelets, et l'immense fleuve Okéanos murmurait autour de la grotte. Et elle n'était connue ni des dieux, ni des hommes, mais seulement de Tétis et de Rhinomée qui m'avaient sauvée. Et maintenant, puisque Tétis aux beaux cheveux vient dans ma demeure, je lui rendrai grâce de m'avoir sauvée. Mais toi, offre-lui les mets hospitaliers, tandis que je déposerai mes soufflets et tous mes instruments. » Il parla ainsi, et le corps monstrueux du dieu se redressa de l'enclume, et il boitait, chancelant sur ses jambes grêles et torses. Et il éloigna les soufflets du feu, et il déposa dans un coffre d'argent tous ses instruments familiers. Puis une éponge essuya sa face, ses deux mains, son cou robuste et sa poitrine velue. Il mit une tunique, prit un sceptre énorme, et sortit de la forge en boitant. et deux servantes soutenaient les pas du roi. Elles étaient d'or, semblables aux vierges vivantes qui pensent et parlent et que les dieux ont instruites. Soutenu par elles et marchant à pas lourds, il vint s'asseoir auprès de Thétis sur un trône brillant et il prit les mains de la déesse et lui dit « Thétis au long péplos, vénérable et cher, pourquoi es-tu venu dans ma demeure où nous te voyons si rarement ? Parle, mon cœur m'ordonne d'accomplir ton désir, si je le puis et si c'est possible. » Et Thétis, versant des larmes, lui répondit « Héphaïstos, parmi toutes les déesses qui sont dans l'Olympos, en est-il une qui ait subi des maux aussi cruels que ceux dont m'accable le chronite Zeus ? Seule, entre les déesses de la mer, il m'a soumise à un homme, à l'Aïakide Péléus, et j'ai subi à regret la couche d'un homme. Et maintenant, accablé par la triste vieillesse, il gît dans sa demeure. Mais voici que j'ai d'autres douleurs. Un fils est né de moi, le plus illustre des héros, et il a grandi comme un arbre, et je l'ai nourri comme une plante dans une terre fertile. Et je l'ai envoyé vers Ilios, sur ses nefs aux pourpres courbées, pour combattre les Troyens. Et je ne le verrai plus revenir dans ma demeure, dans la maison péléienne. Pendant qu'il est vivant, et qu'il voit la lumière de Hélios, il est triste, et je ne puis le secourir. Les fils des Achéens lui avaient donné pour récompense une vierge, que le roi Agamemnon lui a enlevée des mains, et il en gémissait dans son cœur. Mais voici que les Troyens ont repoussé les Achéens jusqu'aux nefs, et les y ont renfermés. Les princes des Argiens ont supplié mon fils, et lui ont offert de nombreux et illustres présents. Il a refusé de détourner lui-même leur ruine, mais il a envoyé Patroclos au combat, couvert de ses armes et avec tout son peuple. Et ce jour-là, sans doute, ils eussent renversé la ville, si Apollon n'eût tué au premier rang le brave fils de Ménoïtios qui accablait les Troyens et n'eût donné la victoire à Hector. Et maintenant, j'embrasse tes genoux. Donne à mon fils qui doit bientôt mourir un bouclier, un casque, de belles cnémides avec leurs agrafes et une cuirasse. Car son cher compagnon, tué par les Troyens, a perdu ses armes, et il gémit couché sur la terre. Et l'illustre boiteux des deux pieds lui répondit « Rassure-toi, et n'aie plus d'inquiétude dans ton esprit. Plutôt Dieu que je puisse le sauver de la mort lamentable, quand le lourd destin le saisira. Aussi aisément que je vais lui donner de belles armes, qui empliront d'admiration la multitude des hommes. » Ayant ainsi parlé, il la quitta. Et retournant à ses soufflets, il les approcha du feu et leur ordonna de travailler. Et ils répandirent leur souffle dans 20 fourneaux, tantôt violemment, tantôt plus lentement, selon la volonté d'Héphaïstos pour l'accomplissement de son œuvre. Et il jeta dans le feu le dur airain et l'étain et l'or précieux et l'argent. Il posa sur un tronc une vaste enclume et il saisit d'une main le lourd marteau et de l'autre la tenaille. Et il fit d'abord un bouclier grand et solide, aux ornements variés, avec un contour triple et resplendissant, et une attache d'argent. Et il mit 5 bandes au bouclier, et il y traça dans son intelligence une multitude d'images. Il y représenta la terre et l'Ouranos, et la mer, et l'infatigable Hélios, et l'orbe enflé de Sélénée, et tous les astres dont l'Ouranos est couronné, les Pléiades, les Iades, la force d'Orion et l'ours, qu'on nomme aussi le chariot, qui se tourne sans cesse vers Orion et qui seul ne tombe point dans les eaux de l'Océanos. Et il fit 2 belles cités des hommes. Dans l'une, on voyait des noces et des festins solennels, et les épouses hors des chambres nuptiales étaient conduites par la ville, et de toutes parts montait le chant d'Hyménée, et les jeunes hommes dansaient en rond, et les flûtes et les guitares résonnaient, et les femmes, debout sous les portiques, admirer ces choses. Et les peuples étaient assemblés dans l'agora, une querelle s'étant enlevée. 2 hommes se disputaient pour l'amende d'un meurtre. L'un affirmait au peuple qu'il avait payé cette amende, et l'autre niait l'avoir reçue. Et tous deux voulaient qu'un arbitre finît leur querelle, et les citoyens les applaudissaient l'un et l'autre. Les héros apaisaient le peuple, et les vieillards étaient assis sur des pierres polies, en un cercle sacré. Les héros portaient des sceptres en main, et les plaideurs, prenant le sceptre, se défendaient tour à tour. Deux talents d'or étaient déposés au milieu du cercle pour celui qui parlerait selon la justice. Puis deux armées, éclatantes d'airain, entouraient l'autre cité. Et les ennemis offraient aux citoyens ou de détruire la ville ou de la partager, elle et tout ce qu'elle renfermait. Et ceux-ci n'y consentaient pas, et ils s'armaient secrètement pour une embuscade. Et sur les murailles veillaient les femmes, les enfants et les vieillards. Mais les hommes marchaient, conduits par Arès et par Athénée, tous deux en or, vêtus d'or, beaux et grands sous leurs armes, comme il était convenable pour des dieux, car les hommes étaient plus petits. Et parvenus au lieu commode pour l'embuscade, sur les bords du fleuve où boivent les troupeaux, ils s'y cachaient, couverts de l'airain brillant. Deux sentinelles, placées plus loin, guettaient les brebis et les bœufs aux cornes recourbées. Et les animaux s'avançaient suivis de deux bergers qui se charmaient en jouant de la flûte, sans se douter de l'embûche. Et les hommes cachés accouraient, et ils tuaient les bœufs et les beaux troupeaux de blanches brebis et les bergers eux-mêmes. Puis ceux qui veillaient devant les tentes, entendant ce tumulte parmi les bœufs et montant sur leurs chars rapides, arrivaient aussitôt et combattaient sur les bords du fleuve. Et ils se frappaient avec les lances d'airain, parmi la discorde et le tumulte et la guerre fatale. Et celle-ci blessait un guerrier, ou saisissait cet autre sans blessure, ou traînait celui-là par les pieds, à travers le carnage, et ses vêtements dégouttés de sang. Et tous semblaient des hommes vivants, qui combattaient, et qui entraînaient de part et d'autre les cadavres. Puis, Héphaïstos représenta une terre grasse et molle, et trois fois labourée. Et les laboureurs menaient dans ce champ les attelages qui retournaient la terre. Parvenus au bout, un homme leur offrait à chacun une coupe de vin doux, et ils revenaient, désirant achever les nouveaux sillons qu'ils creusaient. Et la terre était d'or, et semblait noire derrière eux, et comme déjà labourée. Tel était ce miracle d'Héphaïstos. Puis il représenta un champ de hauts épis, que des moissonneurs coupaient avec des faux tranchantes. Les épis tombaient, épais, sur les bords du sillon, et d'autres étaient liés en gerbes. Trois hommes liaient les gerbes, et derrière eux, des enfants prenaient dans leurs bras les épis et les leur offraient sans cesse. Le roi en silence, le sceptre en main et le cœur joyeux, était debout auprès des sillons. Des héros plus loin, sous un chêne, préparaient pour le repas un grand bœuf qu'ils avaient tué, et les femmes saupoudraient les viandes avec de la farine blanche pour le repas des moissonneurs. Puis Héphaïstos représenta une belle vigne d'or chargée de raisins, avec des rameaux d'or sombre et des pieds d'argent. Autour d'elle, un fossé bleu, et au-dessus, une haie d'étain. Et la vigne n'avait qu'un sentier où marchaient les vendangeurs. Les jeunes filles et les jeunes hommes qui aiment la gaieté portaient le doux fruit dans des paniers d'osier. Un enfant au milieu d'eux jouait harmonieusement d'une guitare sonore, et sa voix fraîche s'unissait au son des cordes. Et ils le suivaient chantant, dansant avec ardeur, et frappant tous ensemble la terre. Puis Héphaïstos représenta un troupeau de bœufs aux grandes cornes, et ils étaient faits d'or et d'étain, et hors de l'étable, en mugissant, ils allaient au pâturage, le long du fleuve sonore qui abondait en roseaux. Et quatre bergers d'or conduisaient les bœufs, et neuf chiens rapides les suivaient. Et voici que deux lions horribles saisissaient, en tête des vaches, un taureau beuglant. Et il était entraîné, poussant de longs mugissements. Les chiens et les bergers les poursuivaient, mais les lions déchiraient la peau du grand bœuf et buvaient ses entrailles et son sang noir. Et les bergers excitaient en vain les chiens rapides, qui refusaient de mordre les lions, et n'aboyaient de près que pour fuir aussitôt. Puis l'illustre boiteux des deux pieds représenta un grand package de brebis blanches dans une grande vallée, et des étables, des encloses et des bergeries couvertes. Puis l'illustre boiteux des deux pieds représenta un chœur de danse, semblable à celui que dans la grande Knossos, Dédélos fit autrefois pour Ariane aux beaux cheveux. Et les adolescents et les belles vierges dansaient avec ardeur en se tenant par la main. Et celles-ci portaient des robes légères, et ceux-là des tuniques finement tissées qui brillaient comme de l'huile. Elles portaient de belles couronnes, et ils avaient des épées d'or suspendues à des baudriers d'argent. Et habilement, dansaient en rond avec rapidité, comme la roue que le potier, assise au travail, sent courir sous sa main. Et il tournait ainsi, en s'enlaçant par des dessins variés, et la foule charmée se pressait autour, et deux sauteurs qui chantaient bondissaient eux-mêmes au milieu du chœur. Puis Héphaïstos, tout autour du bouclier admirablement travaillé, représenta la grande force du fleuve Okéanos. Et après le bouclier grand et solide, il fit la cuirasse plus éclatante que la splendeur du feu, et il fit le casque épais, beau, orné, et adapté au temple du Péléide, et il le surmonta d'une aigrette d'or. Puis il fit les cnémides d'étain flexible. Et quand l'illustre boiteux des deux pieds eut achevé ses armes, il les déposa devant la mère d'Achilleus. Et celle-ci, comme l'épervier, sauta du faîte de l'Olympos neigeux, emportant les armes resplendissantes qu'Héphaïstos avait faites.